Donc, je ne voudrais pas vous ramener sur les bancs de l'école et vous infliger une leçon d'histoire un peu trop scolaire, mais je vous propose quand même, au galop, très rapidement, de faire une petite révision, si vous voulez, de l'histoire sud-africaine, ou peut-être une première vision, mais au galop. Donc, on est parti de la carte. Donc, dans cette première partie de mon exposé, qui sera nécessairement bref, je voudrais donc rappeler un petit peu l'histoire de l'Afrique du Sud et l'histoire de la mise en place de l'apartheid. Alors, sous la forme de quelques gravures, bon, l'Afrique du Sud, d'après ce qu'on en sait, était une zone peuplée depuis au moins 40 000 ans avant notre ère. Donc, quand on va parler de l'arrivée des Européens au XVIIe siècle, évidemment, avant les Européens, il y avait une population indigène. Donc, c'est pas du tout ma spécialité. Donc, j'ai vu des Khoïkho, des Bushiman et les Bantous arrivent que. Donc, il paraît que les Khoïkho et les Bushiman seraient là depuis 40 000 ans avant Jésus-Christ. Et les Bantous, eux, se seraient installés seulement 500 après Jésus-Christ. Bon. En tout cas, pour ce qui nous intéresse, ce qui est important, bien sûr, c'est l'arrivée des Européens. Alors, les Européens, importants par rapport à l'apartheid, entendons-nous, qu'il n'y ait pas de méprise. Bon. Donc, les Hollandais sont les premiers à débarquer au Cap en 1652, et ils vont créer donc la compagnie hollandaise des Indes orientales, et ils vont créer un comptoir au Cap. Donc, la future Afrique du Sud, c'est d'abord une colonie hollandaise. Quelques années plus tard, en France, donc il y a eu la révocation de l'édit de Nantes, c'est-à-dire que les protestants donc sont désormais obligés ou de se convertir, c'est Louis XIV qui a pris cette décision, ou de se convertir ou de s'enfuir. Alors ils s'enfuient, vous le savez, en Europe, dans l'Europe protestante, mais il y en a quelques-uns qui s'enfuient en Afrique du Sud. Il y a 200 huguenots, donc, comme on les appelle, qui s'installent à une cinquantaine de kilomètres du Cap, à Franche-Tech. Aujourd'hui, quand on s'en va en Afrique du Sud, on vous fait visiter, bien sûr, si vous êtes français. Donc ils arrivent vers 1688. Bon. Ensuite, date fondamentale, c'est la dernière, rassurez-vous, enfin la dernière pour la colonisation, les Anglais, les Britanniques, donc, à partir de 1806, vont commencer à s'installer, donc, en Afrique du Sud, notamment au Cap. Bien décidés, d'ailleurs, à y rester et à étendre leur influence. Et ils vont se heurter assez vite, donc les premiers arrivent vers 1806, mais ensuite, et bien sûr, il y a des flux réguliers. Très vite, donc, une concurrence, une rivalité va s'installer entre les premiers colons, qu'on va vite appeler les Afrikaners ou les Boers, qui sont donc d'origine hollandaise ou française, surtout hollandaise, donc d'un côté, et les Britanniques de l'autre. Et car il n'y a pas d'entente, on sent très bien dès le départ qu'il faudra qu'il y ait une conquête, une victoire des uns ou des autres, mais que la cohabitation sera difficile. On ne parle même pas évidemment des indigènes qui ne comptent pas à cette époque. Alors, commencent donc, qui vont se dérouler durant tout le XIXe siècle, des guerres entre les Britanniques et les premiers colons, donc hollandais. Alors, vous le savez, vous en avez certainement entendu parler, il y a d'abord un départ, ce qu'on appelle le Grand Trek, dès 1835, un grand nombre de colons d'origine hollandaise quittent le Cap, donc, et se dirigent donc vers ce qui sera plus tard l'Orange, l'État d'Orange, du Transvaal, à peu près. Et là, ça va être un cheminement difficile déjà, pénible, avec un certain nombre de batailles, de conflits, avec soit des populations noires, soit déjà avec les Britanniques. Et ils arrivent donc dans ces régions du nord de l'Afrique du Sud, et ils s'installent, ils vont créer deux républiques indépendantes au départ, la République d'Orange, qui est en orangé sur l'écran, et la République du Transvaal, en vert. Ensuite, il y aura un peu plus tard la République du Natal, hein, là où il y a Durban. Donc ce sont des républiques, des États autonomes bourgs. Et les Anglais se sont repliés un peu, surtout vers le Cap, disons en gros, puisqu'il y a des déserts, etc., dans la partie bleutée. Mais les Britanniques donc veulent vraiment en découdre, pour surtout que vers 1866, on découvre dans le Transvaal les premières mines de diamants et d'or. 1866, c'est la découverte. Et les bourgs, d'ailleurs, disent, un chef bourg dit à ses compatriotes, ne vous réjouissez pas, nos malheurs ne font que commencer. Et effectivement, à l'odeur, si je peux dire, du diamant et de l'or, va se déclencher une seconde guerre, la guerre des bourgs, qu'on appelle, qui va être assez réduite dans le temps, de 1899 à 1902, mais qui va être atroce, sanglante. Souvent, on dit que les Français ont été des colons, cruels. Hein, aujourd'hui, on revient sur, mettons, ce qui s'est passé à Madagascar en 1947, à Sétif, etc., sans parler, évidemment, de la guerre d'Algérie. Et les Britanniques paraissent dédouanés de beaucoup de choses, mais la conduite des Britanniques, ça n'excuse pas, hein, j'ai l'air de dire ça d'un ton presque en disant, vous voyez, ils sont... Non, ça n'excuse pas nos actions. Mais les Britanniques ont eu une conduite scandaleuse pendant cette seconde guerre des bourgs. Ils ont voulu vraiment les massacrer. Ils ont ensuite mis dans des camps de concentration, hommes, femmes, enfants, les affamants. On a des photos terribles de fillettes squelettiques. Donc ça a été très dur, cette seconde guerre des bourgs. Mais les Britanniques, c'est lors de cette seconde guerre, je dis ça pour les anciens scouts, je suis un ancien scout, Baden-Powell, vous le savez, on nous le racontait, sans qu'on comprenne bien de quoi il s'agissait, a participé donc à cette guerre. Et ça se termine par la victoire des Britanniques. À partir de 1910, il y a la création de ce qu'on appelle le Dominion de l'Afrique du Sud, qui appartiendra au Commonwealth plus tard, à la couronne britannique, et qui regroupe donc l'ensemble des territoires. À cette époque, j'ai fait un petit graphique des populations, les pourcentages. En gros, il y a donc la population noire, bien sûr, est majoritaire, 67% à peu près. Les blancs représentent, mais il me semble que ce schéma, je ne l'avais pas comme ça, moi, sur mon... Bon, peu importe, c'est en passant sur le Macintosh, font un peu moins de 20%, les blancs. Et ensuite, il y a donc des Indiens et des Métis. Mais la population noire, bien sûr, est tout à fait majoritaire. Alors, depuis l'arrivée des colons, on peut dire qu'il y a eu, des colons européens, ségrégation raciale, donc dès le début du peuplement hollandais. Cette ségrégation va être institutionnalisée seulement en 1948. Auparavant, brièvement, c'est pas notre sujet tout à fait. Comment explique-t-on aujourd'hui, je dis pas comment justifie-t-on, comment explique-t-on donc on ait pu installer une ségrégation aussi forte et dans tous les domaines. Alors on invoque au moins trois raisons. La souffrance et la guerre contre l'impérialisme britannique. C'est vrai que ceci a durci les colons. Les africanaires, disons, et a pu par conséquent donner encore plus de poids, d'importance à cette terre, et donc a pu développer cette idée que c'était à eux, qu'ils avaient vraiment tout fait pour la conquête, etc. Deuxième raison qui a pu nourrir cette doctrine de l'apartheid, c'est la doctrine calviniste de la prédestination, donc selon laquelle, la plupart d'entre vous la connaissez encore mieux que moi, j'ai vu tout à l'heure Monseigneur l'évêque, mais je ne l'accuse pas d'être calviniste, loin de là, mais enfin je pense qu'il a bûché davantage de tout cela que moi. Donc l'homme est prédestiné par Dieu, Dieu a créé des élites pour diriger le monde, ce sont les africanaires, les blancs. Et il a aussi créé des gens qui ne sont pas élus pour obéir. Cette doctrine qui nous paraît aujourd'hui surtout donnée de manière aussi schématique, qui nous paraît bien sûr sommaire et surtout contestable, a certainement plus ou moins justifié à l'époque l'apartheid. Enfin, il y a toutes les doctrines de la colonisation, hein, puisque dans les colonies, notamment les colonies françaises, sans aller chercher ailleurs, il n'y a pas l'apartheid. C'est pas institutionnalisé, mais vous le savez très bien, il y a quand même un écart, un fossé en général entre les indigènes et les populations de métropole, comme on dit, ou les blancs tout court. Donc, dans les doctrines de la colonisation, on retrouve l'idée de préserver la minorité blanche qui est menacée par la démographie africaine. Et puis, par la suite, c'est-à-dire à partir du XXe siècle, d'autres raisons seront affirmées, par exemple la survie du capitalisme, que la population, justement, africanaire va mettre comme le capitalisme et la doctrine qui est choisie, le libéralisme, ils peuvent être considérés comme des protecteurs. Il y a également, surtout vers la fin, à partir des années 50, pendant la guerre froide, disons, il y a la lutte contre le communisme. En gros, si on écoutait les africanaires, d'ailleurs c'était pas totalement faux, hein, les blancs étaient donc dans le camp de la liberté, comme on disait, américain, hein, et les noirs, notamment appartenaient à la ANC, dont je vais parler tout à l'heure, ce grand mouvement, qui était très proche du Parti communiste et donc proche de la Russie. Ça ne fait aucun doute. Hein. Mais enfin, les choses n'étaient pas aussi manichéennes que je le dis. Donc, la mise en place de l'apartheid, j'y faisais allusion tout à l'heure, institutionnellement, a été rapide, hein, à partir de 1948. Alors, il y a de multiples lois, j'en cite deux. Bon, l'interdiction des relations sexuelles, hein, pas simplement des mariages, mais des relations sexuelles, donc entre races différentes, et par exemple en 50, la ségrégation résidentielle qui va donc déterminer partout dans les bus, dans les écoles, dans tous les lieux publics, donc un espace pour les noirs et un espace pour les blancs. Voilà donc ce que je voulais vous dire au galop, en première partie, pour recadrer un certain nombre de choses. Bon, bien sûr, tout cela est sommaire, et s'il y a un petit débat, vous ne manquerez pas certainement de compléter ou même de remettre en cause peut-être certaines affirmations rapides. Alors, en deuxième partie, donc, je voudrais dire un mot de l'action de la société civile sud-africaine dans la lutte contre l'apartheid, parce que j'ai élargi un peu le sujet. Hein. Vous savez, les élèves font toujours comme ça. Hein, vous leur donnez un sujet, puis après ils traitent ce qu'ils veulent un peu. Hein. Donc, on m'avait donné uniquement comme sujet de m'occuper de la réconciliation, mais pour moi, l'implication de la société civile dans la réconciliation n'est que l'aboutissement de l'implication de la société civile dans la lutte contre l'apartheid. Bon. Alors, un mot en introduction, j'y tiens pas mal, hein. Je pense d'ailleurs que s'il y a une toute petite contribution ce soir que je pourrais apporter à cela, c'est cette réflexion qui n'est pas originale, hein, mais que je tiens quand même à rappeler, c'est que ce que l'on va décrire, c'est-à-dire la levée d'une société civile qui va essayer de prendre en charge ces luttes, hein, à partir des années surtout 80, eh bien, c'est un phénomène, à mes yeux, mondial. Ce n'est pas spécifique à l'Afrique du Sud. Hein. J'ai mis du Guatemala au Congo, en passant par la RDA. Hein. C'est vrai qu'on trouve des attitudes communes, très voisines, hein, dans ces pays donc d'Amérique latine, d'Afrique noire et ou de les pays d'Europe de l'Est occupés par les soviétiques. Hein. C'est-à-dire que dans les années 80, on va voir, j'ai mis comme fer de lance, la jeunesse s'impliquer énormément. Une jeunesse qui est impatiente dans tous ces pays en voie de développement. Une jeunesse donc qui est frustrée, qui est impatiente. Elle est frustrée parce qu'en général, elle n'a pas de travail. Hein, elle est aussi généreuse. Elle est prête à faire le coup de poing aussi. Pas batailleuse, mais enfin, elle est prête à s'investir physiquement. Et dans tous ces pays, y compris bien sûr en Afrique du Sud, hein, la jeunesse va être au premier rang de tous ces mouvements. Il y a également les femmes. Les femmes, vous voyez, je trouve que quand on fait un bilan des transformations du monde depuis les années 80, on parle de la mondialisation, on parle de choses assez dures, assez terribles, comme la mondialisation, comme l'hégémonie américaine, etc. Donc on souligne toujours uniquement les facteurs négatifs de l'évolution du monde. Mais il y a quand même un facteur positif. Hein, c'est justement l'éveil de cette société civile, avec notamment la prise en main, par exemple, pour tous ceux qui s'intéressent un tout petit peu à l'Afrique, depuis les années au moins 60-70, les femmes jouent au niveau économique, investies qu'elles sont dans l'économie parallèle, elles jouent en Afrique, par exemple, un rôle extrêmement important. Et elles vont s'investir aussi dans la lutte, dans les luttes. J'ai cité le Guatemala, j'aurais pu citer la Colombie, on va voir des phénomènes assez semblables, c'est-à-dire que à la fin des années 80, dans ces pays, il y a une espèce de vent de liberté, on a appelé ça parfois, j'aime bien, le vent d'Est, le vent qui souffle depuis la Pologne, la RDA, etc. Tout ce qui s'est passé dans ces pays-là a des répercussions extrêmement lointaines, en Afrique, en Amérique aussi. Ça veut dire, si vous voulez, que des régimes totalitaires, aux yeux des populations de ces pays, ça veut dire que des régimes totalitaires peuvent s'écrouler. Ils peuvent s'écrouler, pas exclusivement par l'action des sociétés civiles, mais notamment par leur action. Et tout ça est contagieux, si je peux dire. Donc, vous voyez par exemple au Guatemala, comme au Congo, à la fin des années 80, en 90-91, des régimes de transition, alors qu'il y avait jusque-là des régimes autoritaires, si ce n'est totalitaires, qui étaient en place. Ces régimes sont secoués par la jeunesse notamment, et ensuite un régime de transition s'installe avec à la tête très souvent des membres des sociétés civiles ou religieuses, hein, car j'en arrive bien sûr à ce que j'appelle les fers de lance, je l'ai mis en troisième, je sais pas, on ne peut pas bien sûr comptabiliser, mais les églises vont prendre aussi dans l'ensemble du monde un rôle important dans tous ces mouvements du monde. Hein. Alors, on peut interpréter cela de différentes manières. Personnellement, je pense que, après des années, j'emploie un mot qui vous fera peut-être un peu frémir, mais que j'assume, après des années de collaboration et de compromission avec le pouvoir colonial, car, sauf exception, et il y en a eu, dans la colonisation, les églises ont fait corps en général avec le pouvoir politique et le pouvoir militaire pendant très longtemps. Après donc toutes ces années, on a l'impression, si vous voulez, que les églises ne veulent pas manquer une occasion de se racheter en favorisant la transition, les changements de régime, le passage de régimes totalitaires à des régimes démocratiques. Alors, comment ? Eh bien, par exemple, les églises favorisent, inspirent des groupes de défense des droits de l'homme et d'organisations non gouvernementales, les ONG. Donc, dans tous les pays que je cite, hein, y compris l'Afrique du Sud, mais pour le moment, je ne traite pas encore de l'Afrique du Sud à ce sujet. Hein. Ensuite, les églises ont facilité les médiations entre le pouvoir souvent autoritaire, qui ne sait comment rendre ce pouvoir, qui se sent obligé de le rendre, qui a peur, et les églises ont souvent été des arbitres à ces moments-là. Guatemala, Congo, Gabon, Cap-Vert, etc. Hein, les églises ont participé à la mise en place, en général, il y a eu dans tous ces pays, après 1989, donc au début des années 90, il y a eu donc une réflexion commune sur le nouveau régime à créer. Une espèce de réunion des états généraux, si vous voulez, avec des cahiers de doléances, tout ça. Donc, il y a tous les représentants de la société civile, des mouvements, des associations, qui participent à ces assemblées, et la plupart du temps, ces assemblées sont présidées par un évêque ou un prêtre. J'ai sous les yeux, je pourrais vous dire, Mgr Sarah en Guinée, le cardinal de Souza au Bénin, Mgr Combo au Congo, au Zaïre, au Salvador. Donc, je veux dire, ce n'est pas un exemple ou deux, c'est assez général. Alors, pour terminer à ce sujet, ce n'est qu'une introduction, je pense que les églises, notamment les églises catholiques, l'église catholique, excusez-moi, si vous voulez, ces églises semblent satisfaites d'avoir trouvé dans ces nouveaux rôles une voie moyenne. Moyenne entre la théologie de la libération, ces doctrines donc qui sont en gros rejetées quand même par le Vatican comme trop extrêmes, qui, vous le savez, suppose un investissement total et des prêtres, par exemple, et un passage véritablement de ces prêtres dans les mouvements de résistance, etc. Donc, le Vatican, en général, est contre. Donc, voie moyenne entre ces mouvements autour de la théologie de la libération et, bien sûr, une espèce de passivité, hein, ou de compromission qui était le lot de la plupart des églises. Désormais, sans prendre parti directement, le clergé catholique peut participer au changement. Et on retrouve d'ailleurs cette philosophie, par exemple, en Pologne, dans Solidarnosc, et c'est d'inspiration de Jean-Paul II, tout ça. Il y a un lien. Bon, alors, tout à l'heure, je voulais vous dire cela, parce que pour moi, c'est important, et je ne voulais pas vous parler uniquement d'Afrique du Sud, en laissant croire que c'était un fait particulier. Donc, pour moi, ça appartient à un mouvement mondial, même si, bien entendu, il y a des spécificités. Alors, au galop, puisque je regarde ma montre, quels sont les types de structures de la société civile sud-africaine ? Je dis les types, hein, parce que c'est quand même très compliqué, et d'autre part, je suis loin d'être un spécialiste de l'Afrique du Sud. Alors, les partis et les mouvements politiques. Quand l'Afrique du Sud, enfin le Dominion Afrique du Sud se met en place, deux partis sont créés, hein, qui vont coexister. Donc j'ai mis en blanc, le parti national, qui va donc qu'on va rencontrer durant toute la période, et un parti noir, l'ANC, hein, qui est un parti qui à l'époque est moins radical, mais qui a pour but de défendre les intérêts de la communauté noire. Je fais un grand saut dans le temps. L'apartheid donc est institutionnalisé à partir des années 48, 49, 50. On va le voir tout à l'heure, je vais rappeler dans une minute un peu tous les conflits. Et en 1960, le gouvernement blanc d'Afrique du Sud prend des mesures très dures pour essayer d'endiguer les manifestations, les révoltes, les attentats. L'ANC est interdit et passe à la clandestinité. C'est pour ça, vous voyez, je l'ai changé, il n'est plus dans la société officielle, je l'ai mis dans le bleu, donc dans la société civile. Hein. Ensuite, le Parti communiste d'Afrique du Sud, qui avait été créé, est interdit aussi, et dès 1950, donc 10 ans auparavant. Je rappelle aussi que des nouveaux mouvements... C'est pas moi, hein, tout ça. Comment... D'accord, je suis mis hors de cause. Ensuite, des mouvements sont créés, notamment Mandela crée le MK, je ne vous le prononce pas en africanaire, hein, c'est pas la peine, qui est un mouvement plutôt, disons, presque de guérilla, chargé de faire des attentats. Donc, bien sûr, il est clandestin. Et ensuite, un autre mouvement, beaucoup plus radical encore que l'ANC, le PAC, a été créé, mais par des gens qui trouvaient l'ANC trop molle, et donc qui ont formé ce mouvement plus radical. Donc, ceci pour les principaux partis politiques. Après, j'ajouterai, parmi de nombreux mouvements, hein, des mouvements qui se créent à peu près à cette époque, comme le mouvement de la conscience noire, qui joue un rôle très important, qui est animé jusqu'à sa mort, hein, très prématurée, par Steve Biko, hein, et qui ensuite sera soutenu assez étroitement par l'évêque anglican, très connu puisqu'il a eu le prix Nobel, Desmond Tutu. Donc le mouvement de conscience noire, bon, on n'a pas le temps, mais c'est quelque chose de très important, hein, qui est équivalent un peu comme le même type de mouvement, par exemple, aux États-Unis. Hein. Et j'ai cité un autre mouvement parmi d'autres, qui est un mouvement donc créé par Bretton Brettenbach, qui est un Français et un Africain du Sud, qui écrit surtout en anglais et en africanaire, et qui a créé, en grande partie à partir de la France, un mouvement où il y a surtout des Blancs, mais qui est un mouvement de défense des Noirs. C'est un mouvement donc très à gauche. En France, il est en accord, en accointance avec, par exemple, le réseau Curiel. Hein, vous savez, le Curiel, pendant la guerre d'Algérie, qui était un réseau là, de porteurs de valises, etc., un peu comme le réseau Janson, etc. Donc, je ne veux pas comparer quand même l'importance, l'influence du mouvement de la conscience noire, hein, que je viens de citer, et du mouvement de Bretton Brettenbach. Mais enfin, tout ça existe. Et vous voyez, j'ai laissé, on aurait eu plus de temps, je serais plus savant, on aurait pu largement garnir le reste du bleu par différents mouvements. Alors, les églises en Afrique du Sud. J'ai pas fait de longues recherches, j'ai pris ce que m'avait dit un prêtre, aujourd'hui évêque, dont je vous parlerai tout à l'heure assez longuement, qui est Emmanuel Lafont, qui est actuellement évêque de Guyane, hein, mais qui a été pendant 17-18 ans vicaire à Soweto, la banlieue noire de Johannesburg, hein, et que j'ai rencontré, je vous dirai dans quelle occasion. Alors, voilà ce qu'il m'avait dit assez rapidement, et il m'avait dit, bon, l'église catholique représente moins de 10% à peu près de... Bon, à côté de l'Église catholique, j'ai mis le chef de l'Église catholique, dont je vais vous parler longuement dans un instant, qui est l'archevêque Denis Hurley, décédé en 2004. L'Église anglicane, qui est également très importante, enfin très importante, ça veut dire 10-15%, avec Desmond Tutu, donc, et puis l'Église méthodiste, l'Église réformée hollandaise, et, m'a-t-il dit, des milliers d'églises africaines indépendantes. Hein, c'est vrai que dans toute l'Afrique, d'ailleurs aujourd'hui, là aussi, c'est pas un phénomène spécifique à l'Afrique du Sud, il y a un pullulement d'églises indépendantes, hein, mais notamment en Afrique du Sud. Je me rappelle, j'y suis allé une seule fois en Afrique du Sud, hein, il y a 10 ans, mais j'avais été très étonné, je l'avais filmé de loin, je n'osais pas m'approcher, parce que je voyais des rites de baptême dans la mer, là, des gens qu'on trempait, tout ça, et j'ai essayé de savoir quelle église, parce qu'à l'époque, je croyais que c'était soit l'église anglicane, et ça m'étonnait, des pratiques pareilles, et puis on m'a dit, mais non, il y a beaucoup, beaucoup d'églises. Alors, un mot de l'église catholique, donc moins de 10%, Donc, vous avez en photo Denis Hurley. Hein. Je suis très, très heureux, très honoré d'avoir rencontré par le pur hasard, justement, lors de ce petit voyage, Denis Hurley. Ça se passait comme ça. J'étais donc avec un groupe d'amis pour un voyage classique en Afrique du Sud. Et on passe à Durban. Et là, une amie me dit, il faut qu'on aille voir un représentant quand même du clergé catholique, tout ça. Moi, j'étais pas très chaud parce que, si vous voulez, vous arrivez français, là, on les dérange, ces prêtres. Hein, vous frappez à la porte en disant, voilà, je suis français, vous ajoutez, j'habite à côté de Lourdes. Qu'est-ce que vous voulez, si, il ne peut pas passer le temps. Bon, enfin, j'ai obtempéré et on se présente à la cathédrale de Durban. Alors là, c'est une femme qui assumait le rôle de sacristain et qui nous dit, ah, le prêtre est pas là, il faut que vous attendiez un petit peu. Bon, on attend. Et puis, au bout de 10 minutes, donc, un prêtre très grand, bel homme, genre Charlton Heston dans les 10 commandements, vous voyez. À l'époque, il avait déjà 79 ans, mais moi, je croyais qu'il en avait 70, hein. Qui arrive dans un français parfait, qui nous dit bonjour mesdames, bonjour messieurs, je vous prie de m'excuser pour mon français détestable, c'était bien sûr un français impeccable, hein, bon, mais j'ai appris le français quand j'étais à Rome, il y a déjà fort longtemps, et je ne le pratique pas assez, bon, nous fait asseoir, il nous dit, bon, qu'est-ce que vous voulez savoir ?
Alors là, c'était toujours le moment. En général, vous voyez, les amis voulaient y aller, mais après, c'était moi, le prof, qui doit toujours prendre la parole pour poser des questions. Bon. Alors, Jules Guiraud, ben, on voulait savoir si les catholiques avaient participé à la lutte contre l'apartheid. Alors, il dit oui, un peu, oui. Il y a d'autres questions Et ça, je crois, vous voyez, je ne l'ai rencontré que pendant 20 minutes à peu près, pas plus, mais il avait un humour, hein, et il nous a dit des choses importantes, intéressantes, mais ce genre d'humour. Hein. Et je pense que ça résumait bien ce que je vais essayer de dire dans un instant, la forme de participation des catholiques à l'apartheid. Donc, Denis Hurley, il a été le plus jeune évêque du monde, il a été fait évêque à 36 ans, en 51, le plus jeune archevêque du monde, archevêque donc à 41 ans, quelque chose comme ça, et il a été à plusieurs reprises président de la conférence des évêques d'Afrique du Sud, donc des catholiques, hein, toujours, hein, donc le patron de l'église catholique. Alors, quelques photos rapides que je ne peux pas commenter savamment. Hein. Il y a d'ailleurs un site, j'ai découvert d'ailleurs, parce que quand il nous a quittés, j'ai oublié de dire, excusez-moi, pour la visite, c'est anecdotique, mais enfin, bon. Il nous dit oui, il nous a dit après s'être excusé de mal parler le français, et je suis navré, vous ne rencontrerez pas le curé de Durban parce qu'il est en vacances, je suis simplement son remplaçant pour l'été, hein. Je m'appelle Denis Hurley, je suis l'ancien archevêque, point. Et malheureusement, ça ne me disait rien du tout à l'époque. Hein. Donc, c'est en rentrant que j'ai vite cherché qui était cet évêque et que j'ai découvert que c'était quelqu'un de très important et qui avait joué un rôle fondamental. Bon, depuis, je suis allé sur un site qui lui est consacré, surtout depuis sa mort en 2004. Donc, c'est un homme qui a beaucoup pratiqué l'œcuménisme. On le voit avec Desmond Tutu ici. Qui a participé à beaucoup de campagnes. Hein, là, il y avait eu la répression, donc vous pouvez voir, il y a des Noirs derrière qui se sont qui ont un bandeau sur la bouche, donc pour protester contre la censure. Ils portent donc Denis Hurley en tête, la croix de bois, une croix, pardon. Ici, donc, devant une inscription, nous voulons être des êtres humains, chose comme ça, donc toujours avec des populations noires. Là aussi, très œcuménique lors d'une manifestation. Là, c'est après des expulsions qui ont eu lieu et il vient réconforter donc des personnes expulsées. La seconde figure dont je vais vous parler, donc, c'est Emmanuel Lafont. Parce que quand je suis rentré d'Afrique du Sud et que je me suis un peu plus intéressé donc à tout cela, on m'a dit, mais tu aurais dû rencontrer Emmanuel Lafont, lui il a vécu donc 17 ans, etc. Bon, de toute façon je me suis renseigné, il n'était plus en Afrique du Sud quand, il y a 10 ans, donc quand j'y suis allé. Mais j'ai appris qu'il était maintenant directeur des œuvres pontificales en France, donc comme j'avais une étudiante du miracle qui travaillait avec moi sur l'Afrique du Sud, on a décidé de partir tous les deux interroger Emmanuel Lafont. Donc on a eu une très longue conversation avec Emmanuel Lafont, je l'ai enregistré, je lui avais dit, et après dans une petite revue dont, qu'on édite dans notre groupe de recherche, j'ai édité tout son entretien et j'ai trouvé que c'était très intéressant. Très très intéressant. Donc Emmanuel Lafont, prêtre donc Fidei Donum en Afrique du Sud, aumônier régional de la JOC, et curé à Soweto pendant environ 15-17 ans. Et ensuite il a été professeur au séminaire. Alors, j'ai isolé parmi les nombreuses questions auxquelles il a répondu. Je sais que c'est pas très projeter tout ça, il vaut mieux bien sûr souvent le résumer à l'oral. Donc je lui ai demandé quelle a été la position de l'Église catholique face à l'apartheid, la même question que j'avais posée à Denis Hurley. Alors, je sais que vous savez lire, mais enfin je la lis avec vous, j'ai mis en gras certaines choses. Elle n'a jamais endossé l'apartheid. Dès le début, elle l'a trouvé indéfendable humainement et elle l'a dit. Ce qui ne signifie pas que pour une bonne proportion de ses membres, l'apartheid n'est pas logique. Il faut distinguer la position officielle et les attitudes d'un certain nombre, qui étaient teintées de racisme et qui le sont encore aujourd'hui. Pas de langue de bois chez Emmanuel Lafont. Mais l'Église catholique s'est trouvée devant une situation de fait dans laquelle la résistance était très difficile. Elle a donc, comme les principales églises de langue anglaise, protesté sans résister. Je crois que c'est ça, si on veut se souvenir de la... du comportement de l'Église catholique et de la plupart des églises, c'est cela, protester sans résister. Ensuite, je lui pose une deuxième question. Ne pensez-vous pas qu'en Afrique du Sud, l'Église catholique s'est trouvée partiellement désarmée, particulièrement désarmée, tant par rapport aux antagonismes raciaux que par rapport à des problèmes socio-économiques aussi aigus que la surpopulation, et même par rapport aux problèmes culturels soulevés, par exemple, par l'adaptation de la liturgie aux mentalités africaines? Très belle réponse. Oui, en grande partie. Une majorité de gens dans l'Église... J'ai fait quelque chose, là. Qu'est-ce que c'est? J'ai peut-être tout à l'heure... Enfin, hier, j'ai sauté quelque chose. Il y a une espèce de paradoxe, nous dit-il. Un paradoxe congénital, si j'ose dire. Nous sommes, nous, catholiques, sous-entendu, chargés de porter le message de Dieu, universel et anarchiste, mais nous avons besoin d'une institution pour le transmettre. Et l'institution, par nature, est conservatrice et prudente. J'aurais dû demander à Monseigneur de sortir un instant. Non, mais, non, peut-être. Les catholiques disposent de textes extrêmement forts. J'ai eu l'occasion de travailler à Soweto dans un milieu œcuménique. Et j'ai pris conscience que je pouvais appuyer mes actions et mon comportement sur des textes très soutenus intellectuellement. Je pouvais rassembler une masse de textes, y compris du Vatican. En parenthèse, j'ai oublié de dire que Denis Hurley avait joué un rôle fondamental dans Vatican II, notamment pour toutes les questions de justice sociale. Donc, des textes de Vatican extrêmement forts pour dénoncer la situation et demander un engagement concret. Malheureusement, la majorité de mes frères et de mes sœurs ne les connaissent pas et ne s'y intéressent pas. Voilà le paradoxe. Au total, un message qui est proprement révolutionnaire et une communauté immense où, malheureusement, il existe une tentation permanente d'affadir ce message. Je crois que c'est assez bien résumé, enfin... un comportement très fréquent chez nous tous. Cet évangile a néanmoins inspiré de tout le temps des gens, etc. Alors, au galop aussi, puisqu'il me reste plus que 6 minutes, au galop, les types d'actions de cette société civile, alors dans la société civile, je mets les partis, les mouvements, les églises, évidemment. Hein. Donc, quels ont été les types d'actions? Bon, on n'a pas le temps, donc j'ai fait simplement, j'ai isolé un certain nombre de manifestations. Les choses commencent déjà dès les années 50-53 par de grandes émeutes, par des émeutes, pardon, dans les grandes villes. Mais le point de départ vraiment du conflit, de la guerre civile, on peut le dire comme ça, hein, c'est 1960, le massacre de Sharpeville par la police, qui fait, ça varie, 59 morts, 69 morts, selon certaines sources. Ensuite, bon, l'arrestation de Nelson Mandela en 63. Il va donc, il est condamné à la prison à perpétuité. On le met à Robben Island, qui est une île là au large que nous allons visiter, tous les touristes, hein, que c'est assez impressionnant d'ailleurs. Ensuite, une série de grèves à Durban, des émeutes sanglantes en 76. C'est vraiment là aussi, c'est à partir de 76 qu'il y a une escalade sanglante. 77, la mort en prison de Steve Biko, donc, qui était le leader de Conscience Noire. Violents affrontements, 80, je n'ai mis que quelques dates. 84-85, émeute au Johannesburg, exécution alors de Benjamin Moloïse, qui a beaucoup frappé notamment des jeunes Français. Moi, dans ma famille, j'ai un jeune Benjamin, il s'appelle, et j'ai demandé un jour à son père pourquoi. Il est né en 85, au moment justement de l'exécution de Benjamin Moloïse. 86, violents affrontements à Soweto. Août 87, des mineurs en grève. Bon. Et donc, c'est la fin de l'escalade sanglante. Et arrive, à partir de 89, quelque chose qui paraît miraculeux, hein, qu'on n'attendait pas, mais je le répète, qui est un mouvement quand même mondial. 89, bon, c'est la table ronde de la Pologne, c'est l'ouverture du rideau de fer en Hongrie, c'est le mur de Berlin, c'est beaucoup de choses. Alors vous allez me dire, mais quel rapport ? Des rapports que, à partir du moment Gorbatchev cesse d'alimenter l'ANC, etc., les Blancs sont un peu à bout de souffle, économiquement grève et tout, donc il y a un point de rupture, et des deux côtés, on est presque obligé à se rencontrer. Donc, Frédéric de Clercq est élu président de la République, et il entame des négociations avec l'ANC. Bon, il faut très vite, évidemment, légaliser l'ANC, du moment, parce que les premières rencontres étaient clandestines, puisque l'ANC était clandestine. Donc, les légalisations de l'ANC et libération de Nelson Mandela, abolition des lois de l'apartheid en 89-91, Nelson Mandela est élu donc président de la République, bien sûr, c'est le premier noir d'Afrique du Sud. Et enfin, on arrive au sujet, j'ai presque terminé, en 96-98, une commission de la vérité de la réconciliation sillonne le pays donc pour recueillir les témoignages, et je vais quand même vous parler, sinon je serai expulsé, peut-être même excommunié, je ne sais pas. Troisième et dernière partie, alors les actions en faveur de la réconciliation donc en Afrique du Sud. Alors, lors des négociations qui ont eu lieu donc entre l'ANC et de Klerk et le Parti national, donc, un accord est intervenu très vite, disant il faut faire une nouvelle constitution. Bon, c'est normal. Hein, bon. Et qu'on appellera la constitution de transition, qui est faite en 1993. Et donc, cette constitution rejette définitivement l'apartheid, et elle contient un postambule. J'ai appris que ça se disait, bon, un préambule on connaît, mais un postambule, donc quelque chose qui vient bien sûr en dernier. Et ce postambule est très important de la Constitution de 93. Il est intitulé « Unité nationale et réconciliation ». Et là, on énumère un certain nombre de principes. C'est dans la Constitution. Interdiction de la vengeance et des représailles. Nécessité de reconstruire un nouveau tissu social et une nouvelle unité nationale. Nécessité de découvrir la vérité sur les actions criminelles commises pendant l'apartheid. Et enfin, volonté de donner l'amnistie à qui avouera ses responsabilités. Et pour appliquer ces principes inscrits dans la Constitution, est créée tout de suite, en 1993, une commission appelée Vérité et Réconciliation. Alors, vous avez sous les yeux donc les objets de la commission. Préparer un dossier sur toutes les violations des droits humains pendant l'apartheid, qu'on va lui signaler, émettre des recommandations sur les réparations à apporter, si c'est possible, et octroyer des amnisties sous certaines conditions. Voilà l'objet. Alors, quelle est la période couverte par la commission? C'est strictement délimité. Ce sont tous les événements à partir de mars 60, le massacre de Sharpeville, pardon, ça se termine décembre 93. L'organisation de la commission, bon, la commission est présidée par une commission de 17 membres, 7 noirs, 6 blancs, 2 métis, 2 indiens, et c'est Desmond Tutu, donc l'archevêque anglican, qui a été nommé président de la commission. Mais la commission est aidée par des fonctionnaires, si je peux dire, enfin pas des fonctionnaires, mais des gens qui les aident, 400 personnes. Alors, donc, à l'intérieur de la commission, il y a trois sous-commissions, ou sous-comités. Un comité d'amnistie, alors c'est ce comité qui est chargé de lancer des enquêtes. Donc, mettons, un repenti arrive en disant, voilà, j'étais policier à Pretoria, hein, et effectivement, en service commandé, j'ai eu l'occasion de torturer plusieurs fois des Noirs qui étaient emprisonnés, etc. Bon, alors, la commission enregistre cette déclaration, bien sûr, et se lance dans une enquête. Après enquête, la personne comparaît devant le comité des droits de l'homme et raconte donc leur histoire, ainsi que les témoins et les victimes qui ont été, découverts lors de l'enquête faite par la commission d'amnistie. Et enfin, le dossier passe devant une troisième commission qu'on appelle de réhabilitation et de réparation. Alors, le fonctionnement, le comité donc a travaillé durant 3 ans, 96-98, 20 000 personnes sont passées, hein, bien sûr la commission s'est déplacée, a sillonné le pays, c'est un pays très grand, hein, donc audience publique dans 80 communautés, etc. Et je termine par, je crois que c'est quand même le plus important, et surtout, pour faire transition avec mon successeur, je crois qu'il y a eu deux concepts au moins qui ont inspiré cette commission. D'abord, il y a le concept de vérité. Je fais que reprendre les deux mots, vérité et réconciliation. Alors d'abord, le concept de vérité. Effectivement, l'un des buts fondamentaux de la commission, c'est d'éclairer les faits et les crimes commis pendant l'apartheid. Donc, il y a une volonté d'accumuler des sources pour pas que ça disparaisse, si vous voulez. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas, nous, pendant la période, que ce soit la guerre d'Algérie ou que ce soit la Seconde Guerre mondiale, il y a eu évidemment des procès qui ont fait surgir un certain nombre de choses. Mais il y a beaucoup de choses qui ont totalement disparu. Donc là, il s'agit de... Si on veut reconstruire l'histoire, il faut avoir fait la lumière et avoir accumulé le plus de preuves possible. Bon, en tant qu'historien, évidemment, je suis comblé par un pareil comportement. Second concept, alors, où là, on approche de très près les concepts chrétiens, le concept de réconciliation. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Enfin, chacun, nous sommes libres et capables de... Mais en deux mots, hein, d'après des lectures, d'ailleurs, je ne dis pas que c'est sorti uniquement de moi. Mais le concept de réconciliation signifie deux choses, au moins. D'abord, l'interruption de ce qu'on pourrait appeler une dialectique action-réaction, c'est-à-dire une spirale des vengeances. On dit « stop ». Or, pendant 50 ans, l'Afrique du Sud, ça a été comme ça. Il y a eu donc un attentat, riposte, on emprisonne, on exécute. Donc là, réconciliation, ça veut dire on arrête cette dialectique, on arrête ce schéma action-réaction. Deuxième signification de ce concept de réconciliation, c'est un changement de rapport aussi dialectique entre les défenseurs et les opposants de l'apartheid. Il y a désormais, si vous voulez, jusque-là il y avait deux camps, les défenseurs, les opposants. Eh bien désormais, il y a un changement de langage. Il y a la réconciliation, ça signifie l'instauration d'un dialogue. Alors, est-ce que ça signifie un pardon? Peut-être. Mais d'abord un dialogue. Le bourreau et la victime, dialogue. On a vu d'ailleurs à la télévision, hein, je n'ai pas pu retrouver, il y a la cassette, hein, où je l'ai gardée chez moi, mais il y a un certain désordre, sinon j'aurais passé quelques extraits. On a vu fonctionner. Donc on voit le bourreau et la victime face à face. Alors, c'est pas évidemment un dialogue amical, mais c'est un dialogue. Et de ce dialogue peut, ou non, bien sûr, sortir le pardon. Conclusion. Brève observation. Un, je pense que, bien entendu, l'aspect chrétien de l'approche de la commission, cette commission, est indéniable. Et c'est pas étonnant, la plupart des Sud-Africains sont chrétiens et approuvent donc la philosophie sous-jacente de la commission. Et ils ont trouvé normal qu'on parle parfois de confession et de pardon. Deuxième remarque, c'est un peu un bémol, si vous voulez, le concept de confession est quand même resté symbolique. Et je pense qu'il faut l'utiliser quand même avec prudence, parce que dans la confession chrétienne, le remords et le pardon sont nécessaires. Et ils se concrétisent en général par une volonté de réparer le tort qu'on a pu commettre, et on s'engage au moins à essayer de racheter les violences, ou enfin les actions mauvaises qu'on a pu commettre. Hein. Ce qui n'a pas été le cas nécessairement dans ces commissions. Hein. Ce qui veut dire que cette commission, elle est magnifique en tant qu'esprit, et elle a fait avancer beaucoup les choses, c'est évident. Mais elle a quand même produit de la frustration dans l'opinion. Parce que, bon, d'abord, tous les coupables, inutile de vous dire, ne sont pas passés. Et ensuite, les coupables, parfois, et même souvent, n'ont pas exprimé des remords. Et surtout, les coupables n'ont pas été punis. Parce qu'il n'y a pas eu de punition. On pouvait refuser l'amnistie, la commission l'a fait, souvent, mais elle ne pouvait pas punir. Et il ne pouvait pas y avoir de poursuite. Donc je crois, pour terminer, que le grand succès de la commission, c'est l'établissement de la vérité. La commission a établi une description officielle relativement complète des événements du passé, et on ne peut plus dire maintenant, on ne peut pas dire, non, l'apartheid n'était pas ainsi, n'était pas aussi violent, mais non, on n'a pas quand même torturé, on exagère. Et je termine par un membre de la commission qui dit, le transfert de cette expérience à d'autres sociétés n'est pas simple, parce que des jugements hâtifs ont été produits. En tant que Sud-Africains, nous sommes fiers de ce que nous avons fait. Nous avons besoin de dire que nous avons créé un précédent et d'autres sociétés doivent faire mieux. Nous avons réussi quelque chose et nous avons aussi souvent échoué. C'est un défi pour les autres peuples que d'apprendre de cette expérience. Quelques pistes de réflexion. Comment rétablir la vérité historique? Permettre aux victimes de s'exprimer publiquement? Comment leur donner un espace pour raconter leur histoire en public? Cela est très important pour les victimes, car leur voix n'était jamais écoutée dans le passé. C'est encore difficile pour eux, mais le silence a été rompu, à la fois au niveau des communautés locales et au niveau national. Certains ont parlé dans leur communauté, d'autres dans les médias nationaux. Cela doit pouvoir exister dans toute société où il y a eu une guerre civile. Voilà, c'est tout.
Voilà, merci à Jean-François. Bon, Jean-François Soulier.